Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Sa rencontre avec le jeune Pablo Picasso a marqué le début de la période rose du peintre. Elle a été son premier grand amour, a contribué avec lui à révolutionner le monde de l'art et est tombée pourtant dans l'oubli. Je vous raconte maintenant une artiste et modèle du début du siècle dernier qui a laissé un témoignage unique de ses années au sein de la bohème artistique montmartroise et de la célèbre bande à Picasso, Fernande Olivier. Nous sommes un soir de l'été 1905 sur les hauteurs festives et malfamées de Montmartre. Dans ce quartier en marge du Paris haussmannien, les artistes sans le sou viennent chercher inspiration en menant une vie de bohème. Là, à deux pas de la basilique du Sacré-Cœur, encore inachevée, c'est une nuit comme les autres qui commence au cabaret du Lapin Agile. Quand ils ne travaillent pas dans leurs ateliers du bateau Lavoie, modeste superposition de logements en bois vétuste situé au 13 de la rue Ravignan, c'est à cette adresse que les poètes, les peintres et leurs muses se donnent rendez-vous. Comme souvent, le propriétaire du lieu, Frédéric Gérard, que tout le monde surnomme le père Frédé, a sorti sa guitare. Il joue à un air joyeux, tandis que quelques jeunes habitués attablés autour de lui l'accompagnent en chantant. Il y a les écrivains Apollinaire et Salmon, les peintres Modigliani et Van Dongen, Max Jacob, le touche-à-tout, et puis, parmi cette bande d'artistes encore méconnus, il y a aussi un certain Pablo, un Espagnol surdoué et timide, arrivé à Montmartre voilà un an maintenant. Pablo Picasso, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, est assis à côté de celle qui partage sa vie, Fernande Olivier. Lui est artiste, elle, son modèle attitré. Et ils forment ainsi un duo inséparable. Ils ont le même âge, 24 ans, sont amoureux et se respectent. Fernande Olivier n'est pas habituée à être traitée avec autant d'attention et de délicatesse par un homme, ni par qui que ce soit d'ailleurs. Alors, avec le peintre andalou et leurs colocataires insouciants du bateau Lavoir, la Parisienne est heureuse, très heureuse, écrit-elle. Ce bonheur, Fernande Olivier le savoure d'autant plus que la ville lui a longtemps refusé. Avant de devenir modèle à l'âge de 19 ans, à la faveur d'une rencontre avec le sculpteur Laurent de Bienne, la jeune fille a vécu l'enfer. À cette époque terrible de sa vie, elle ne s'appelle pas encore Fernande Olivier, mais Amélie Lang, son nom de naissance. Dès sa venue au monde le 6 juin 1881, Amélie a souffert. Née hors mariage, abandonnée par ses parents, elle est élevée par une tante sévère, gérante d'un petit commerce qui la livre à seulement 17 ans à son bourreau et mari, Paul Percheron. L'homme a 25 ans quand il jette son dévolu sur Fernande Olivier. Il ne lui plaît pas le moins du monde, mais a-t-elle son mot à dire? Après l'avoir invité à boire un chocolat chaud, Paul Percheron incite Fernande à passer la nuit chez lui et la viole pas moins de 7 fois. Dans une société bourgeoise où les femmes ne peuvent qu'être des jeunes filles pures ou des épouses, Fernande Olivier ne peut dès lors plus lui échapper. Après plusieurs semaines de calvaire, elle tombe enceinte d'un fils qu'elle abandonnera comme elle l'avait été. Impitoyable, la tante de la victime lui ordonne alors d'épouser son agresseur.
« C'est ta faute. Quand on est vicieux, on est puni. Tu dois te marier, tu te marieras. Ou je ne veux plus entendre parler de toi et tu iras en maison de correction. »
Le mariage est célébré le 8 août 1899 et la nature de leur relation ne change pas. Adolescente, Fernande Olivier avait déjà connu les abus sexuels d'un oncle. Traumatisée encore davantage par la férocité de son époux, elle en arrive à une conclusion simple, triste, mais qui lui semble alors évidente et qu'elle consigne dans ses souvenirs intimes qui seront publiés à titre posthume. L'amour, c'est une belle saleté. Depuis ses 15 ans, Fernande Olivier allège sa peine en la traduisant ainsi à l'écrit dans un journal. Est-ce la brutalité de son existence qui lui confère cette plume si forte, si naturelle et sincère qu'admire et lui envie l'écrivain Paul Léoto? Il faut dire que Fernande Olivier a du courage à revendre. Après plusieurs mois d'enfermement et de violence conjugale, elle le prouve en ayant l'audace de s'enfuir. Nous sommes alors en 1900. Et tandis que l'exposition universelle de Paris annonce en grande pompe le siècle qui s'ouvre, Fernande Olivier entame une seconde vie. À 19 ans, elle tire un trait sur son passé en choisissant un nouveau nom. Amélie Percheron, épouse opprimée et silencieuse, devient Fernande Olivier, modèle professionnel et écrivaine en devenir. C'est sous ce pseudonyme qu'elle s'installe dans l'atelier du sculpteur Laurent de Bienne, avenue du Maine d'abord, puis dès 1901 au bateau Lavoir, la fameuse résidence d'artistes de Montmartre. Au cœur de ce foyer culturel ardent où se croisent différentes nationalités, Fernand d'Olivier pose entre autres pour le peintre italien Giovanni Boldini, le catalan Ricard Canals ou encore Joachim Sunyer, catalan lui aussi, qui devient son amant. Mais ce n'est pas lui l'Espagnol qui va changer sa vie. L'homme avec qui Fernand d'Olivier connaît ses seuls jours heureux, vous l'avez compris, c'est Pablo Picasso. Après avoir intégré le bateau Lavoir au printemps 1904, Picasso rencontre un jour sa voisine alors qu'il revient de déjeuner, un petit chaton dans les bras. Il le lui offre, puis lui fait visiter son atelier. Dans le désordre de la pièce, Fernand d'Olivier découvre alors les tableaux froids et déchirants de Picasso. Des toiles à dominante bleue que lui a inspiré le suicide de son ami Carlos Casagemas, survenu 3 ans auparavant. C'était la fin de la période bleue, racontera Fernand d'Olivier. Car après leur union, par une nuit d'orage du mois d'août 1904, les deux amants reprennent goût à la vie. Et ce bonheur, Pablo Picasso va maintenant en imprégner ses toiles, entamant ainsi celle qu'on appellera sa période rose. Dans l'aquarelle baptisée « Méditation » qu'il peint à la fin de l'année, Picasso se représente assis à côté de son lit, contemplant Fernand d'Olivier endormi. Sur cette peinture, le bleu, synonyme de chagrin, laisse déjà place à des nuances de rouge et de beige, plus chaudes et plus joyeuses. Amoureux, le peintre aborde aussi, au cours de sa période rose, des thèmes d'une gaieté nouvelle. Il s'intéresse au monde du spectacle et s'inspire notamment du cirque Medrano, où il se rend régulièrement avec son amante. Sur ses toiles, arlequins, jongleurs et acrobates remplacent tour à tour les aveugles, les mendiants et les morts. Ce changement de ton lui réussit. En 1906, Picasso sort de la misère en vendant plusieurs œuvres au marchand d'art Ambroise Vollard. Un an plus tard, il peint au bateau Lavoir un tableau aux lignes géométriques, fondateur de l'art moderne, Les Demoiselles d'Avignon. Cette évolution vers le cubisme à laquelle Fernand d'Olivier participe en lui servant de modèle fera la fortune et la gloire de Pablo Picasso. En 1909, lui et sa compagne s'installent dans un appartement confortable au 11 boulevard de Clichy. Mais Fernand d'Olivier profite peu du succès de l'Espagnol. La période rose s'éloigne et après des infidélités et des disputes répétées, le couple se sépare en 1912. À seulement 31 ans, Fernand d'Olivier cesse alors définitivement son activité de modèle et vit difficilement de métiers précaires, dont celui d'artiste peintre. Elle partage un temps la vie de l'acteur Roger Carle, mais cela ne l'empêche pas de devoir gagner la sienne. En 1930, à près de 50 ans, Fernand décrit plusieurs articles sur l'époque de la bohème montmartroise. 3 ans plus tard, elle publie avec l'appui de l'écrivain Paul Léoto le livre « Picasso et ses amis ». Même septuagénaire, bien qu'affaibli par l'arthrite et la surdité, Fernand d'Olivier songe à faire paraître ses souvenirs intimes écrits à partir de son journal à l'intention de Picasso, mais le peintre star le lui interdit. Il préfère lui offrir 1 million de francs chaque année pour l'aider à survivre. Cette autobiographie est finalement éditée en 1988, 22 ans après le décès de Fernand d'Olivier et 15 ans après celui du peintre qui ne la lira donc jamais. Picasso, auprès de qui on l'a compris, vivre n'a pas toujours été rose.
Europe 1, historiquement vôtre.